Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Nathalie Guita Babourage est à la fois docteur en médecine, spécialiste en santé intégrative et en Ayurveda. Nathalie anime des ateliers sur le féminin, le yoga et enseigne la méditation. Après une carrière de médecin, Nathalie continue à se former et choisit de créer l'Institut de santé intégrative pour créer des ponts entre la médecine conventionnelle et les sagesses anciennes. Par son travail, elle œuvre à la science de demain. L'émission s'appelle « Regarde ailleurs ». Donc l'idée, c'est vraiment d'élargir sa vision sur soi, d'élargir sa vision sur le monde à travers les rencontres, hein, des rencontres inspirantes qu'on peut faire dans différents déplacements, différents voyages. Avec moi, Nathalie Babourage. La journée a commencé ce matin, tôt, avec un bain dans l'eau à 12 degrés dans une rivière quelque part dans les montagnes du Portugal. La journée a continué avec du yoga, une session de yoga. Devant nous, un bouquin dont on parlera un peu plus tard dans ce podcast. Mais Nathalie, j'ai envie de savoir qui tu es, d'où tu viens, quelle est ton histoire, quel est ton itinéraire personnel. Donc on va prendre le temps de découvrir un petit peu la personne, l'âme que tu es. Bonjour Nathalie.
Bonjour Alexandre. Écoute, merci pour ton invitation. Qui suis-je? C'est intéressant, c'était la question de la méditation tout à l'heure. J'ai envie de dire, je suis une exploratrice de la vie. C'est vraiment moi ce qui m'anime tous les jours depuis très petite en fait. Mais pour commencer plutôt chronologiquement, mon âme a décidé de s'incarner en France, en région parisienne, mais de parents indiens. Donc on va dire que ma première partie de vie jusqu'à 10 ans, j'ai connu une éducation à l'occidentale. Et puis, comme mes parents ont décidé de rentrer en Inde, ce qui fait que j'ai grandi à la fois avec un référentiel occidental, mais en immersion dans un pays qui porte des richesses ancestrales et qui a vécu aussi différentes parties de l'histoire de l'humanité. Ce qui fait qu'avec tout ça, à 18 ans, j'avais besoin de liberté. En tant que femme, notamment, il y a 20 ans en Inde, c'était pas évident. Et donc j'ai décidé de revenir en France pour faire des études de médecine, puisque je pensais à l'époque que pour comprendre et explorer le vivant, les études de médecine allaient m'aider.
Est-ce que tu peux revenir sur l'histoire de tes parents? Qu'est-ce qui a fait que tes parents ont choisi de venir vivre ici en France?
Pondichéry est une ancienne colonie française et comme mon père est né près de Pondichéry, à 18 ans, il a pu choisir la nationalité française. Et à l'époque, comme beaucoup d'autres jeunes pondichériens, il a décidé de rejoindre l'armée française. Donc il s'est retrouvé à Berlin, puisqu'il y avait une partie française. Et puis quelques années après, il est revenu en Inde, il s'est marié avec ma mère, qui l'a rejoint. Ce qui fait qu'on est plusieurs milliers de franco-pondichériens, comme ça, dans mon cas, qui sommes nés en France, mais avec une culture pondichérienne, indienne. Et donc il y a même un lycée français à Pondichéry, donc on peut aller jusqu'au bac, faire nos études. Et ensuite, par contre, si on a envie de continuer nos études dans le secondaire en France, il faut revenir en France.
Donc tes parents, tu es né ici en France, tu as grandi en France jusqu'à l'âge de 10 ans. Tes parents sont retournés vivre à Pondichéry. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont choisi de retourner là-bas?
Je pense qu'ils ont été rappelés par la famille, par l'envie aussi de transmettre à leurs enfants la culture indienne. Et surtout, leurs parents commençaient à se faire âgés et ils avaient le besoin de prendre soin d'eux. Donc ils sont rentrés pour la famille.
Quand toi, tu allais à Pondichéry, à l'âge de 10 ans, tu avais déjà été en Inde ou c'était ta première fois que tu mettais les pieds sur le continent qui était finalement un peu le berceau de tes origines?
Non, on était déjà allé 2-3 fois en vacances. Mais ce n'était pas la même chose. De venir en vacances dans notre famille, comme les cousines qui viennent de France pour rester 2-3 mois, et venir s'installer et plonger vraiment dans les traditions, ça a été pour moi un choc culturel, bizarrement. D'ailleurs, j'ai même fait un rejet de l'Inde à cette époque-là, puisque justement, moi, ce qui me sautait aux yeux, c'était l'injustice qu'on faisait aux petites filles, notamment, avec ce décalage entre l'éducation d'un garçon et d'une fille, le système des mariages arrangés, des castes. Moi, ça ne collait pas, en fait, pour moi. Et je pense que J'ai fait une double crise d'adolescence, j'ai envie de dire, à la fois en tant qu'adolescente, comme n'importe quel adolescent, mais en plus, j'ai mal vécu le fait de revenir dans un pays qui, pour moi, était un peu étranger, mais en même temps, je sentais que c'était mon pays. Et en fait, à 18 ans, quand j'ai pris l'avion pour revenir en France, je me suis dit, plus jamais je viendrai là. C'est intéressant parce que, après, dans mon cheminement et le fait d'arriver en France, dans une fac de médecine, on va dire, l'une des plus vieilles d'Europe, qui elle aussi portait des traditions et une forme de système de caste aussi, je me suis dit, mais finalement, c'est universel. Ce que moi, je voyais en Inde, ça existe aussi en Occident. Et surtout, le fait de focaliser sur un aspect de la santé, la maladie, les diagnostics, les traitements, et de s'éloigner quelque part du vivant, ben, j'avais plus de nourriture, moi, que je recherchais, sur la compréhension de l'être humain, des êtres vivants, de la Terre. Et là, j'ai eu un appel de nouveau pour me reconnecter à mes racines, en essayant de comprendre un peu plus ce qu'était l'Ayurveda, comment se soignaient mes ancêtres avant qu'il y ait la médecine occidentale. J'en avais même fait un mémoire à l'époque, puisque je faisais un diplôme universitaire de médecine humanitaire. Et là, je me suis dit, mais il y a tout, en fait. C'est juste que ça a été oublié, que même en Inde, en fait, on est parti vers une course de l'Occident, de la médecine occidentale. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à me réconcilier. Et je suis retournée en Inde après, et j'en ai même profité pour amener des groupes de personnes, et notamment de femmes, puisque j'accompagne les femmes essentiellement, à vivre une immersion en Inde pour nous reconnecter à notre boussole intérieure à travers tout ce que l'Ayurveda peut nous offrir.
On parlera de spiritualité, on parlera de médecine un peu plus tard dans ce podcast, mais je reviens à cette époque de ta vie, donc à 10 ans tu retournes en Inde, donc ce pays qui est un peu le tien, mais dans cette double culture. Qu'est-ce qui te reste de cette époque-là, quand tu arrives à 10 ans, tu sais que tu vas venir habiter ici? Comment est-ce qu'on s'insère dans un pays nouveau, étranger, mais pas si étranger que ça?
Pour moi c'était le chaos. Et d'ailleurs toute personne qui est déjà là en Inde se retrouvera dedans. L'Inde c'est vraiment... On peut vivre un moment de connexion juste intense avec l'univers, avec le grand tout, et cette dimension spirituelle en fait. Et puis une seconde après, on peut se retrouver dans une rue où des enfants sont en train de mourir, où il y a quelque chose de très... ça demande d'être bien ancré en fait. Et j'ai envie de dire souvent quand on me pose cette question, c'est ce que l'Inde m'a offert, c'est cette capacité à naviguer en des différentes dimensions, entre le concret, la matière, mais le spirituel... extrême, j'ai envie de dire. Je pense qu'on a une forme de résilience quand on a vécu en Inde qui fait qu'on est capable d'embrasser le chaos plutôt que de résister et de lutter contre. Et moi, c'est ça que je retiens de ma vie là-bas.
Tu reviens en France à l'âge de 18 ans pour étudier la médecine. Pourquoi se poser la question à Pondichéry de ce que tu allais faire du reste de ta vie. Pourquoi tu choisis la médecine à cette époque-là?
Comme je te disais, je suis passionnée par la biologie et de comprendre les mécanismes du vivant.
Donc déjà, petite fille.
Oui. Ensuite, pourquoi ne pas avoir fait de la médecine ayurvédique en Inde? Et on s'est posé la question avec mes parents. Déjà parce qu'à l'époque, la médecine ayurvédique n'était pas reconnue. Alors, en France, elle n'est toujours pas reconnue officiellement, mais même en Inde, un jeune Indien, je vois dans mes cousins et cousines qui sont restés en Inde, quand on leur dit « tu vas faire médecine », ils vont avoir le réflexe de vouloir s'inscrire en fac de médecine occidentale en Inde. Parce que l'effet du colonialisme, il ne faut pas oublier qu'il y a eu plus de 500 ans d'anglais, a fait que tout le référentiel, même chez les Indiens, c'est la médecine, c'est la modernité. Et il y a une forme de... On a mis en deuxième plan les médecines traditionnelles. Sauf peut-être encore dans les villages. Et du coup, pour moi, mon réflexe à l'époque, il faut se rappeler à 18 ans, c'est je veux être une femme libre, indépendante. Je ne veux surtout pas finir en mariage arrangé. La meilleure des choses, en fait, socialement, même dans les sociétés indiennes, de faire des études de médecine, c'est reconnu. Et ça, pour moi, c'était la voie de l'indépendance. En plus que j'aime le contenu, enfin, à l'époque, c'était... moi, j'ai envie de faire quelque chose qui a du sens, de comprendre le vivant. Et en plus, en 97, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était l'année où Mère Teresa est morte et Diana, la princesse Diana est morte. Et donc sur TV5 Monde, à Pondichéry, ils passaient en boucle toutes leurs œuvres humanitaires. Et je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie de faire quelque chose de ça. J'ai envie d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres cultures. Il y avait cette curiosité, en fait. Et j'aimais les voyages, j'aimais les rencontres. Donc je me suis dit, je vais faire médecine humanitaire. Parce que ça nourrit mon besoin de compréhension, de connaissances sur le vivant, ça nourrit mon besoin de rencontre et ça nourrit mon besoin d'être indépendante. Tu vois, c'était, tout était là pour...
Nathalie, tu es née en France, tu retournes en Inde à l'âge de 10 ans, tu reviens en France à l'âge de 18 ans pour étudier la médecine. Et après ?
Bah, ça a été un choc culturel dans l'autre sens. De me dire, mais finalement, je suis chez moi nulle part. Parce que finalement, petite, même si j'avais l'impression d'être française, on voyait que j'étais d'origine étrangère. Arrivée en Inde, je parle le tamoul avec un accent et puis j'ai un comportement différent des autres indiennes. On voit que j'ai vécu à l'étranger, que je viens de l'étranger. Et de nouveau, je reviens en France. Je me retrouve en fac de médecine en première année. Déjà, il y a très peu de personnes étrangères en fac de médecine à Montpellier. Et du coup, mon réflexe, c'est de me dire, j'essaie de passer le plus inaperçu possible pour pouvoir qu'on ne me dérange pas et que voilà, je ne sorte pas un peu du moule. Puisque cette sensation d'être une extraterrestre, finalement, ça a toujours été, ça fait partie de mon ADN.
Tu vas au bout de tes études de médecine ?
Oui, parce que je suis une coriace. Et parce que j'étais dans le... Voilà, je m'étais conditionnée à 18 ans en partant de chez ma famille, de l'Inde. Je m'étais dit, voilà, moi, c'est... Je veux devenir indépendante. Puis quand je veux quelque chose, moi, je vais vraiment jusqu'au bout. Et même si ça a été des études longues et difficiles, je me suis dit, on y va. Comme ça, j'ai le diplôme. Et en fait, j'ai travaillé. Pendant les études, on a un système où on est interne à l'hôpital, donc on travaille à plein temps. Et après, j'ai travaillé pendant 5 ans, alors dans un milieu complètement différent de là où je suis aujourd'hui, à accompagner les femmes. Là, j'étais médecin de prévention chez les pompiers de Paris, donc médecin militaire. J'ai réalisé en fait que j'ai un peu continué la voie de mon papa qui était militaire en fait, pour l'armée française et que j'ai eu besoin à un moment donné de cette structure qu'apporte l'armée. Et j'ai pu quand même finalement faire ce qui me plaisait dans le sens où je faisais de la médecine de prévention. Et j'étais donc, je prenais soin des pompiers qui étaient en demande d'approches non médicamenteuses pour être en pleine forme, pour pouvoir être opérationnels dans leur sortie incendie. Et là, j'ai pu expérimenter, j'ai pu proposer des outils autour de la respiration, de la gestion du stress. J'ai pu y mettre des touches en fait. De yoga, de méditation, sans forcément utiliser ces mots-là. Mais ça a été pour moi mes premières expériences de santé intégrative.
Mais déjà à ce moment-là, donc quand tu fais les études de médecine, tu continues à t'intéresser à la philosophie, la spiritualité indienne, l'ayurveda. C'est quelque chose que tu étudiais parallèlement à ça ou tu étais vraiment focus sur la médecine telle qu'on l'enseigne ici à l'occidental ?
Bah déjà au bout de la troisième année, j'ai commencé à me dire, mais moi ce que je voulais, c'était comprendre... c'était comprendre comment ça marche tout ça et comment rester en bonne santé. Et le fait de ne pas avoir les réponses dans le cursus classique, c'était l'époque où je commençais à reconnecter avec l'Inde, mais avec une nouvelle manière de voir aussi ces trésors de mes ancêtres et de ce pays. Et donc, au moment où je faisais ce fameux mémoire, en fait, j'ai commencé à lire des écrits sur l'Ayurveda et ça m'a passionnée, en fait, cette vision holistique où le macrocosme et le microcosme sont reliés, où en fait on fait partie intégrante de la nature. Et tant qu'on ne prend pas ça en considération, en fait, on va juste soigner des symptômes et pas prendre en charge la personne dans sa globalité. Donc, j'ai commencé à lire, à me former. Pendant mes études, je me suis formée aussi en Ayurveda, en Inde. Et après que j'ai passé ma thèse, je suis allée aussi aux États-Unis et dans différents centres, en fait. J'avais soif d'apprendre, et ce que j'appelle le syndrome de la carte d'étudiant chronique. Okay. J'avais besoin de me former, de comprendre et de nourrir ces espèces qui n'étaient pas nourries dans la médecine classique.
Tu utilises des termes, j'aimerais qu'on les définisse. Donc tu parles de l'Ayurveda. Qu'est-ce que c'est que l'Ayurveda ?
L'Ayurveda, étymologiquement, en sanskrit, ça veut dire sagesse de la vie. Et c'est une médecine, en fait, traditionnelle indienne, qui fait partie d'autres médecines traditionnelles indiennes. C'est vrai qu'en Occident, on connaît très bien, enfin, on connaît de plus en plus l'Ayurveda et moins les autres, mais il ne faut pas oublier que l'Inde, c'est plus un continent qu'un pays. Il y a 700 langues et dialectes. Et pareil, en fait, chaque région a ses propres médecines. Mais ce que j'aime bien avec l'Ayurveda, c'est moi, ce qui me parle, c'est cette conception du vivant et ses interrelations. Et comment est-ce que ce qu'on connaît en médecine moderne, occidentale, de la physiologie, ça se colle complètement avec la grille de lecture de l'Ayurveda.
D'où vient ce savoir, d'où viennent ces connaissances ?
Les historiens ne sont pas tous d'accord. Il y en a qui disent que ça, c'est un savoir qui a plus de 2000 ans, il y en a qui disent même 5000, parce qu'il y a eu une tradition orale pendant très longtemps, du coup on n'a pas de traces. Et les origines présumées, ce sont des rishis, donc des sages, qui étaient dans des états de méditation, des états modifiés de conscience, et qui auraient reçu, comme ça, des intuitions sur ces connaissances du vivant. Mais en fait, dans le monde entier, chaque culture avait sa manière de prendre soin, y compris en Occident, comme tu dis. C'est pour ça que quand les gens disent « ouais, mais la médecine traditionnelle », en faisant référence à la médecine occidentale, pour moi, c'est pas ça. Parce que la médecine traditionnelle en Occident, c'est les rebouteux, c'est les druides, et au Pays Basque aussi, enfin partout en fait, il y avait des personnes, des femmes médecines, des hommes médecines, qui étaient connectés aux énergies des lieux et qui pouvaient prendre soin. Et en effet, au moment des siècles des Lumières, on a commencé à s'intéresser à la matière, à disséquer, et finalement, il faut se rappeler que les labos pharmaceutiques et la science médicale, elle a à peine 100 ans. Ça permet de resituer un petit peu l'évolution et l'historique. Et dans mon livre, j'en parle, de me remettre en lumière aussi le contexte dans lequel la médecine occidentale a pris son essor. Et ça, moi, je ne l'ai pas appris en fac de médecine, et on n'en parle pas à l'école, on n'en parle pas dans l'histoire. Pourtant, la médecine occidentale, elle est née à partir de la conquête du Nouveau Monde, dans le colonialisme, l'esclavage, et la révolution industrielle qui a donné naissance au capitalisme. Donc elle a dans son ADN une manière d'être dans la performance, dans la déconnexion à la nature, et dans un système qui fait qu'elle crée des évaluations scientifiques, qui fait qu'elle se met au-dessus. Tu vois, pour moi, il y a cette structure de pyramide inculquée par le patriarcat, par le colonialisme, qui fait que, quoi qu'il arrive, elle sera toujours au-dessus. Et que dans des situations d'urgence, on ne va pas faire appel à tout ce qui existe. C'est ce qui s'est passé ces deux dernières années pour moi. Je trouve ça vraiment questionnant de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on s'est tous rivés, en tout cas tous les gouvernements se sont rivés vers une seule manière de prendre en charge cette épidémie. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis en place d'autres... Il y a tellement de choses aujourd'hui, on le sait. Tu parlais de sciences nouvelles, mais... On parle des sciences statistiques qui montrent le taux de telle ou telle propagation de virus ou quoi, mais il y a d'autres sciences, notamment les neurosciences, qui nous montrent à quel point c'est important de se connecter à sa respiration, c'est important de se connecter à son système immunitaire, de le nourrir. Il n'y a rien eu dessus. Donc pour moi, une des raisons pour lesquelles c'est la science occidentale et la médecine occidentale qui prend le dessus, c'est qu'elle est née dans un système qui a une forme de monopole.
Et c'est pour ça qu'elle a écrasé les traditions, qu'elle ne s'est pas du tout intéressée même à ses propres traditions et croyances. Hein. Tu parlais effectivement de rebouté ou de druidisme.
Oui, je pense, oui. Ouais. Et c'est en ça que pour moi, ces deux dernières années, il y a de plus en plus de personnes qui ont senti cette inadéquation, cette incohérence, et qui se questionnent beaucoup sur pourquoi. Parce que moi, ça fait 15 ans en fait, que je m'intéresse à la médecine intégrative, qui est comment allier la médecine occidentale aux sagesses ancestrales. Et il y a beaucoup de médecins et de chercheurs qui sont vraiment à fond dedans. Parce quand j'ai quitté les pompiers, j'ai fait un peu un road trip pour aller à la rencontre des pionniers en santé intégrative, notamment aux États-Unis et en Inde. Je voulais en faire un documentaire à l'époque.
Quand tu parles de santé intégrative, c'est vraiment trouver des passerelles entre le monde occidental, le monde moderne et les savoirs ancestraux.
Exactement, c'est créer des ponts. Et donc il y a beaucoup de choses qui existent, il y a beaucoup de personnes et de démarches qui sont engagées, même au niveau universitaire, dans certaines universités aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons en fait, ils ont 20 ans d'avance. Mais malgré tout, pour moi, la preuve qu'on n'a pas pu mettre ça en pratique, concrètement, ces deux dernières années, mais ça montre qu'il faut aller au-delà. Il y a des choses dans l'invisible, dans l'inconscient collectif, qui a besoin de guérir pour vraiment être dans cet intégratif où tout le monde va être au service du tout. Et la médecine occidentale aura sa place dans les endroits où elle est efficace, mais elle va laisser sa place dans les endroits où on a besoin, notamment autour de la prévention et du bien-être et de la santé.
On revient à ta vie parisienne ou en région parisienne. Qu'est-ce qui fait que tu choisisses de quitter l'ordre des médecins ?
La médecine occidentale, parce que on va dire que je rentrais bien dans les cases. J'avais un métier dans l'armée, donc une carrière toute tracée. Je pouvais avoir une retraite, j'avais un appart de fonction. Tout allait bien de l'extérieur, mais en fait, moi, il y a une partie de moi qui n'était pas nourrie, notamment cette part plus spirituelle, en fait. De toujours devoir adapter mes mots dans mes conférences pour pas choquer, pour pas être prise pour une perchée, en fait ça collait plus. Et j'avais vraiment besoin de m'exprimer pleinement et en plus dans l'armée il y a quand même une énorme hiérarchie, c'est-à-dire que j'avais réussi à mettre en place des programmes de gestion du stress, mais ça avait pris un temps, une énergie folle. Puis tous les trois ans, on change de chef, donc il faut re-justifier tes projets. Enfin, j'avais plus envie de mettre d'énergie là-dedans. Donc voilà, ça a été un moment où je me suis dit, c'est le moment de partir. Après un voyage dans le désert, en fait, je sentais que c'était le moment de partir. Et donc c'est comme ça que je me suis éloignée de Paris, mais finalement, j'ai fait par étapes. Hein. Je suis partie et finalement, j'étais en région parisienne. Et là, j'ai beaucoup voyagé puisque je proposais des formations dans des écolieux, justement. Des formations de santé intégrative pour les soignants, pour les personnes en burn-out et en entreprise aussi, pour sensibiliser à cette vision intégrative, parce que moi, ça va au-delà de la médecine. C'est comment est-ce que chaque être humain peut se mettre dans cet espace où il ou elle se rend compte qu'il est au service de quelque chose de plus grand et que, en fait, plus tu vas dans ton quotidien faire des choses qui font sens, plus ça va être aligné à l'intérieur et le corps, il n'aura pas besoin de se manifester sous forme de symptômes ou de maladies. Et du coup, ça m'a animée, c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans. Et puis la Guadeloupe est arrivée sur mon chemin.
Yeah. parlait de paradigme avant, c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend bien compte, on parle aussi d'effondrement, de collapsologie, donc cette urgence de faire autrement face aux différentes crises, que ce soit les crises éducatives, les crises sanitaires, les crises écologiques, les crises de sens aussi. Il y a cet Indien, Satish Kumar, qui dit aussi « Arrêtez de vouloir trouver un travail, mais essayez de créer votre propre réalité ». Donc je crois qu'on en est vraiment là aujourd'hui, cette envie de pas mal de gens de remettre ce sens et de créer sa réalité. Par quoi commencer quand on veut être des créateurs de nos vies ?
Ben merci de mentionner Satish Kumar que j'ai rencontré. Je suis allée dans son université en Angleterre et c'est une personne vraiment... Pour moi, c'est le grand-père spirituel. Et j'aime beaucoup, oui, beaucoup de choses qu'il partage. Quand tu parlais des différentes crises, déjà pour moi, c'est de se rendre compte que toutes ces crises ont une origine commune et que c'est juste différentes facettes d'un même système qui s'effondre. Et d'identifier déjà ce système patriarcal. Une autre indienne, Vandana Shiva, que tu connais sûrement, parle justement de le patriarcat, pour elle, c'est trois facettes. C'est le colonialisme, l'esclavage et le capitalisme qui sont ces systèmes qui poussent à l'extrême la nature et donc nous qui faisons partie de la nature et aussi les femmes par rapport à l'histoire de l'humanité. Et déjà d'en prendre conscience et de se dire qu'on fait partie de ce mouvement et de cet effondrement, mais pas dans une posture de victime ou de bourreau, mais de se dire non, peut-être que en allant visiter à l'intérieur de moi aussi tous ces systèmes d'oppression que j'ai mis en place sans m'en rendre compte, et en m'en libérant, peut-être que je contribue à la guérison collective du système et qu'on va faire naître quelque chose de nouveau. Je suis plutôt optimiste. On va faire naître quelque chose de nouveau qui va naître du chaos, donc ça va pas être forcément toujours confortable, mais peut-être que il va y avoir des cadeaux derrière.
Nathalie, on est sur une terrasse en bois devant moi, un bouquin. Donc, j'ai cru comprendre qu'il y en a eu d'autres avant. Celui-là, c'est le dernier, oui. Devenir sa propre médecine. Parle-moi de ce projet.
Ben, finalement, c'est la continuité de ce documentaire qui est né il y a maintenant 12 ans. Enfin, cette ébauche de documentaire. Et je comprends pourquoi finalement, je n'étais pas allée jusqu'au bout. Là encore, c'était l'univers qui conspirait. C'était une première manière de rentrer dans le concret de c'est quoi, qu'est-ce qui pourrait être. Un espace intégratif. Ce livre, il est né, il y a une première graine qui a été plantée bien avant le confinement, le premier confinement, parce que j'ai échangé avec Anne Guéquer, donc, qui est éditrice chez Erol et créatrice du podcast Métamorphose. Et elle m'avait dit, il faudrait que tu écrives un livre sur les femmes médecine. Et à l'époque, moi, ça ne m'avait pas parlé dans le sens où je ne me sentais pas légitime. Parce que pour moi, les femmes et les hommes médecine, c'est... Voilà, dans les traditions ancestrales, par exemple amérindienne, où on parle beaucoup d'hommes et de femmes médecine, ou aussi dans les traditions chamaniques, même s'il y a une part de moi qui, pour qui ça vibre. Puis elle m'a dit, non, en fait, en tant que médecin, que femme, t'as aussi cette approche holistique et chamanique dans le sens très connecté aux éléments et aux vibrations. Et je lui avais dit, bon, bah, écoute, on verra peut-être plus tard, et j'avais laissé infuser. Et pendant le premier confinement, il y avait une telle injustice, une blessure d'injustice qui s'est réveillée, sur tout ce qui s'est passé, que je me suis dit, tiens, j'ai envie d'écrire un roman avec une héroïne, une étudiante en médecine, qui se poserait des questions sur ce qui est en train de se passer pour me donner la liberté, en fait, de questionner le système. Mais ça venait pas. Tous les matins, je m'asseyais, j'essayais d'aller à la rencontre de cette héroïne, et ça venait pas. Et là, j'ai recontacté Anne, et j'ai dit, écoute, y a un truc qui revient, mais j'arrive pas à écrire le roman. Elle m'a dit, mais écris-le à la première personne. Raconte ton histoire, raconte tes prises de conscience, et regarde ce qui... Peut-être que ton héroïne va apparaître à ce moment-là, peut-être pas, mais... Et du coup, c'est comme ça qu'est née l'écriture de ce livre, Devenir sa propre médecine, où c'est avant tout un partage assez intime de mes questionnements de femme qui s'est souvent sentie extraterrestre, qui a grandi entre l'Occident et l'Orient, et qui se demande à quel moment j'ai donné mon pouvoir à l'extérieur. Et pourquoi ? Quand tu te poses avec toi-même et que tu es en quête de sens, il y a un moment donné, il y a cette question de comment je récupère ma puissance. Voilà.
Tu disais que tu organises des stages, des séminaires, essentiellement en lien avec le féminin.
Des retraites, oui. Pour l'instant, c'est vrai que j'accompagne majoritairement des femmes, mais je sens que dans l'évolution, dans tout ce qui est en train de se passer, et dans cette réunion du masculin et du féminin, parce qu'on a tous et tout en nous, le masculin et le féminin, hein, c'est pas dichotomique, il y a clairement une envie de réunir aussi toutes les personnes de tous les genres aussi, parce qu'on parle des femmes et des hommes, mais il y a de plus en plus de personnes aussi qui se définissent différemment, et je pense que ça fait partie du nouveau qui est en train de se créer, donc ouais, y a un temps pour créer des espaces de réconciliation et c'est ça qui me porte en ce moment.
Je reviens à ce qui te caractérise, cette notion d'interculturalité, de double culture. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être né d'une famille indienne en France, de retourner en Inde, de voyager en Guadeloupe et de continuer à voyager? Qu'est-ce que tu retiens de cette interculturalité?
Bah, c'est une sacrée richesse, même si je ne m'en rendais pas compte avant. C'est des vrais cadeaux parce que dans le livre, j'en parle en fait. Pour avoir la capacité à visiter nos dragons, nos ombres intérieures, le fait d'avoir plusieurs origines et d'avoir vécu dans différents pays, ça m'a permis d'avoir cette capacité à prendre du recul, cette fameuse médecine de l'aigle, de prendre du recul et de voir, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous relie tous les uns les autres, qu'est-ce qui nous connecte, quelles sont ces différentes facettes des crises dont tu parlais tout à l'heure et quels sont les points communs pour arriver à l'origine du dragon et voir comment le transformer en fait en lumière. Donc pour moi, ça m'a ouvert dans cette dimension à la fois très spirituelle mais très incarnée.
Nathalie, merci.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. Le podcast s'appelle Regarde ailleurs et donne la parole à ceux que je rencontre sur mon chemin de photographe voyageur, ceux que j'aime interviewer, ceux qui pour moi sont inspirants, partant de l'idée qu'une personne, que le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres. J'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à en retrouver d'autres sur toutes les plateformes de streaming en tapant Regarde ailleurs.